Octave Mirbeau, Farces et moralité. Interview. Personnage. L'intervieweur. Chapuzot, marchand de vin. Une femme. Une boutique de marchand de vin. Porte à gauche donnant sur la rue. À droite de la porte, comptoir d'étain encombré de bouteilles. Derrière le comptoir, un dressoir avec des bouteilles, des verres. Sur les murs, diverses affiches de théâtre. Table, chaise. Scène première. Au lever du rideau, Chapuzot, gros, rouge de figure, en manches de chemise, les bras nus, une serviette autour du cou, est debout derrière le comptoir. Il rince des verres. Une femme, très pauvrement vêtue, au masque abruti par la misère et la boisson, sirote un petit verre de 3-6. Des gens passent dans la rue, derrière la porte, où l'on peut lire « Vins et liqueurs, extra, 20 centimes ».
Alors, ça ne va toujours pas chez vous ce matin?
Point fort, point fort.
Mais qu'est-ce qu'il a, votre gosse?
Une colique, que ça fait pitié. Il va, il va, il est ouvert.
Et qu'est-ce que vous faites?
Rien.
Elle achève de siroter son petit verre.
Quoi faire, dites? C'est pas commode, c'est ben embarrassant.
Oh, faut lui donner 2 cuillerées à café de 3-6 dans son lait.
Vous croyez?
C'est épatant, ce que ça les réchauffe, ce que ça leur fiche tout de suite du cœur au ventre. C'est souverain, quoi.
2 cuillerées?
À café, oui.
Alors, tout de même, je veux bien essayer, pauvre petit.
Pour 2 sous, hein?
C'est ça.
Pendant que Chapuzot emplit une petite bouteille...
Ah, nous n'avons pas de chance. Il y a 3 ans, l'aîné est parti dans on ne sait quoi.
Ben oui.
L'année dernière, c'est le second qui est mort de la gorge.
Ben oui.
Et voilà maintenant ce pauvre petit. C'est épatant. Ah, tout de même, on les soigne pourtant bien.
C'est pas le tout de les soigner. S'agit de leur donner ce qu'il faut. Quand il aura bu ça, j'en réponds. Ne vous tourmentez pas, allez.
Enfin, ça fait...
4 sous. moins cher que chez le pharmacien. Hein.
Ça, c'est vrai.
Et meilleur goût.
Pour sûr, voilà 4 sous.
Merci.
Je m'en vais bien vite.
Et meilleure santé chez vous.
Pauvre petit.
La femme sort, Chapuzot se remet à essuyer ses verres. Entre l'intervieweur, jeune homme de 25 ans, teint pâle, moustache blonde, très fine, mélange de gommeux et d'employé de maison. Cravate voyante, chapeau à bord plat, appareil photographique en sautoir.
Monsieur Chapuzot, s'il vous plaît.
C'est moi, monsieur, pour vous servir.
Ah, très bien.
L'examinant avec attention...
Gros, brun, 45 ans, bras courts, face bestiale, c'est bien ça.
Qu'est-ce qu'il dit?
D'abord un boc.
Voilà, voilà.
Et bien tiré.
Voilà, voilà.
Vous appelez ça bien tiré, enfin.
Il l'avale d'un trait. Chapuzot dépose une soucoupe, bien en évidence sur la table.
Et maintenant, retroussez votre manche gauche.
Ma manche gauche? Pardon, mais...
Et montrez-moi votre bras.
Ah, ça, mais...
Allons, allons.
Un inspecteur de la vaccination, sans doute?
L'intervieweur examine le bras.
Tatoué, je m'en doutais. Un vase de giroflée entre 2 cœurs. Parfait, parfait.
Il prend l'appareil photographique qu'il tire de son étui.
Permettez... Attention.
À qui ai-je l'honneur?
Ne bougez donc pas, sapristi.
Un photographe, maintenant.
Très bien. Tournez un peu de profil.
Encore ?
C'est ça, ne bougez plus.
Encore ?
C'est ça, ne bougez plus. Ça y est. De dos, je vous prie.
Quel singulier photographe !
Le dos est aussi un visage. Attention, voilà.
Il remet l'appareil sur la table.
Et maintenant, les mesures.
Il tire de sa poche un mètre et mesure.
Taille 1,70 m.
Il inscrit sur un carnet.
C'est un tailleur.
La largeur de poitrine, voyons, 98 cm. Aucun sentiment de la proportion esthétique.
Pour sûr, c'est un tailleur.
L'intervieweur examine la main de Chapuzot.
Doigts en spatule.
Tâtant ses joues.
Zygomat proéminent. Asymétrie de la face.
Lui tapant le menton.
Légèrement prognate. Plus dangereux encore que je le croyais.
Quel drôle de tailleur.
L'intervieweur se dirige vers la table, à droite, où il s'assied.
Et maintenant, causons.
Pardon, me direz-vous.
Quoi ?
À qui j'ai l'honneur de parler ?
Ah, c'est juste. L'intervieweur en chef du mouvement.
Plaît-il ?
L'intervieweur en chef du mouvement.
Ah ?
Vous ne connaissez pas le mouvement ? Le journal le plus littéraire, le mieux informé, le plus répandu. 12 millions de lecteurs. Un journal qui donne en prime à ses abonnés des automobiles, des maisons de campagne, des titres de rente, des maîtresses bien dressées. Alors, qu'est-ce que vous connaissez ?
Je connais...
Oh, pardon, je suis pressé. Berthelot m'attend à 10h, le roi des Belges à midi. Veuillez, je vous prie, répondre nettement et rapidement aux questions sensationnelles que je vais avoir l'honneur de vous poser. Et d'abord un boc.
Voilà, voilà.
L'intervieweur dispose son carnet de notes.
C'est le moment psychologique.
Chapuzot serre le boc que l'intervieweur avale d'un trait et, après avoir mis la soucoupe avec l'autre, il se rassied.
J'ai peut-être bien gagné une maison de campagne.
Vous êtes marchand de vin.
Dame, ça se voit, il me semble.
Sale métier, monsieur. Métier antipatriotique s'il en fut. Ivrognerie, débauche, alcoolisme, dégénérescence, socialisme peut-être.
Bah. Oh, oh.
Ah, tous les poisons. Enfin, cela vous regarde.
Dites donc vous.
Mais il ne s'agit pas de ça pour le moment. Je ferai d'ailleurs cette enquête prochainement.
C'est pas malheureux.
Donc, vous êtes marchand de vin, vous l'avouez.
Mais dame.
Et vous avouez aussi vous appeler Chapuzot.
Bien sûr, Théodule Joseph.
Faites attention à ce que vous allez répondre. C'est très grave, excessivement grave.
Bien sûr, je m'appelle Chapuzot, comme mon père.
Très bien. Vous viviez depuis longtemps en mauvaise intelligence avec votre femme ?
Avec ma femme ?
Oui, parbleu.
Ça, c'est fort. Je ne suis pas marié.
Parfait. Concubinage en plus. Tout cela se tient. Alors... Vous viviez en mauvaise intelligence avec votre maîtresse.
Quoi ? Qu'est-ce que vous me chantez ? Avec ma maîtresse ?
Dame, puisque vous prétendez n'être pas mariée, comment voulez-vous que j'appelle celle avec qui vous vivez en mauvaise intelligence ? Votre marmite ?
Elle est bonne. Non, elle est trop bonne. Mais je n'ai point de maîtresse non plus.
Vous n'êtes pas mariée et vous n'avez pas de maîtresse. À d'autres, monsieur Chapuzot.
Et puisque c'est la vérité.
La vérité, oui. Vous savez, on ne me la fait pas, celle-là. Je la connais. Je les connais toutes. Inutile de nier plus longtemps. Voyons. Votre femme vous trompe-t-elle ? Est-ce vous qui trompez votre femme ? Enfin, qui trompe-t-on ici ?
Mais non, de non, vous ne m'avez pas compris. Je vous dis...
Oui, oui, vous voulez faire le malin.
Sapristi, je vous dis...
Le loustique, le fanfaron, le simulateur, ça ne prend pas.
Puisque, voyons...
Ça ne prend pas avec la presse, savez. Je vous engage, Chapuzot, à ne pas vous jouer plus longtemps de la presse. Je suis la presse, moi, Chapuzot. 12 millions de lecteurs.
Que voulez-vous que j'y fasse ?
La presse est la grande force moderne, la grande éducation moderne, la conscience universelle. Elle dénonce, juge et condamne. Un boc.
Voilà, voilà.
La presse, Chapuzot, est à elle seule, à elle toute seule, la police, la justice, etc., etc. Elle récompense, châtie ou pardonne. Selon le prix qu'on y met, la presse est tout. Tâchez de ne pas l'oublier.
Il tend le boc vide à Chapuzot, qui le remet en place.
Et qu'est-ce que ça me fait à moi, tout ça?
Ce que ça... Au fait, avez-vous un traité de publicité avec le mouvement?
Quoi?
Et je vous demande si vous avez un traité de publicité avec le mouvement.
Un traité?
Eh oui, tout le monde en a, Chapuzot. Les gouvernements, les administrations, les banques, le commerce, l'industrie, les juges, les avocats, les plaideurs, les médecins, les malades, les femmes galantes, les femmes adultères, les cocus, les peintres, et vous pas. Imprudent, vous n'avez pas de traité. Eh bien, tant pis pour vous, Chapuzot.
Qu'est-ce que c'est un traité?
Raillez, raillez, raillera bien qui... Pourquoi avez-vous jeté une bouteille de cassis à la tête de votre femme?
Une bouteille de cassis?
Oui, répondez.
Une bouteille de cassis? Du diable, par exemple.
Vous ne voulez rien dire? Très bien.
Une bouteille de cassis? Mais sacré matin!
Taisez-vous, ne mentez pas. Oh, ne mentez jamais. Le mensonge est impie et il ne sert à rien avec la presse. Je vais encore essayer, bien que vous n'ayez pas de traité de publicité avec le mouvement. Voyons.
Il lui tape amicalement sur l'épaule.
Voyons, mon cher Chapuzot, mon vieux Chapuzot, quel est le mobile de cet acte de brutalité sauvage? Car enfin, vous avez l'air d'un brave homme, que diable! Est-ce une vengeance vulgaire, une explosion soudaine de colère irréfléchie, une suggestion, une congestion? Oui?
Chapuzot exprime le plus complet abrutissement.
Et continuons par la douceur.
Il lui caresse l'épaule.
Et sommes-nous en présence d'un cas passionnel ou purement psychologique ou simplement atavique?
Atavique quoi?
Vic, atavique.
Nom de nom!
Vous ne savez pas. Vous ne savez même pas analyser vos actes. Pas la moindre culture scientifique. Une mentalité de hanneton, alors.
Il lui envoie une chiquenaude sur le front. Chapuzot, comme s'il chassait une mouche.
Ah, flûte!
Il va vers son comptoir, disparaît sous la table, et on entend des bruits de verrerie, de vaisselle remuée.
Enfin, j'ai pitié de vous, Chapuzot. Je vois qu'il y a dans votre cas plus de débilité intellectuelle que de volontaire obstination. Prêtez-moi toute votre attention. Je vais poser la question sous une autre forme. Une forme accessible à votre intelligence. Deux bocs.
Voilà, voilà.
Nous allons trinquer.
Ah ben j'aime mieux ça, hein. Allez.
À votre santé.
À la vôtre.
Chapuzot... Je suis votre ami. Répondez-moi comme à un ami. Hey, sacré Chapuzot. Sacré Chapuzot.
Il le caresse sur la joue d'un geste amical.
Avez-vous eu beaucoup d'assassins dans votre famille?
Quoi?
Car enfin, si vous n'avez ni femme ni maîtresse, vous avez peut-être une famille. Hey.
Oh, voilà que ça recommence.
Vous n'avez pas de famille? Bizarre, mais possible après tout. L'enfant perdu que sa mère abandonne. Pauvre Chapuzot.
Chapuzot passe derrière le comptoir, va vers la table de gauche qui l'essuie, revient au comptoir, retourne à la table. L'intervieweur suit tous ses mouvements.
Alors, dès votre naissance, vous avez été livré aux mauvais instincts de la solitude, aux déplorables exemples de vagabondage. Ce serait une explication, une excuse peut-être.
Chapuzot, tandis qu'il va et vient, lève et crispe les poings.
Vous ne répondez pas. C'est chez vous une volonté bien arrêtée de ne pas répondre.
Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je réponde?
Autre chose alors. Vous reconnaîtrez que j'y mets de la patience, de la ténacité, de la délicatesse. Je ne vous prends pas en traître.
Il l'arrête un instant dans ses va-et-vient.
Y a-t-il eu préméditation dans le choix de la bouteille de cassis?
Chapuzot se dégage et repart.
Encore le cassis? Mais qu'est-ce que vous dites?
L'intervieweur le poursuit.
Et pourquoi une bouteille de cassis plutôt que du curaçao ou telle autre liqueur?
Mon Dieu, mon Dieu!
Il retourne au comptoir où il malmène ses bouteilles. Il finit par monter sur l'escabeau et, dos au public, déplace les objets qui sont sur le dressoir.
Prenez garde, c'est très important cela, Chapuzot. Peut-être le jury trouvera-t-il là une circonstance atténuante ou aggravante, selon la nature de vos déclarations.
Chapuzot s'est détourné au mot de jury.
Le jury? Quel jury?
Et peut-être l'éminent docteur Sauquet, une des lumières de la science, Chapuzot, et qui vous examinera certainement, et qui vous autopsiera peut-être, verra-t-il dans ce choix préétabli d'une bouteille de cassis un phénomène anthropologique de responsabilité ou d'irresponsabilité morale?
Si je comprends, Chiquette, à ce que vous dites, Dieu de Dieu!
Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que ce que je vous demande, c'est... Suivez-moi bien. C'est par le récit complet de votre crime...
Mon crime, maintenant!
Par l'analyse exacte et minutieuse des circonstances particulières, générales, conjugales et sociales, accompagnées et suivies... de me donner les éléments sur quoi je puisse établir la psychologie de ce crime.
Ma tête, mon Dieu!
Faire en quelque sorte la chimie mentale de ce crime. Ah! Est-ce clair, maintenant? Est-ce lumineux?
Ben, vous savez...
Et vous n'avez plus le droit de vous retrancher derrière l'obscurité de ma parole, et l'absconcité, dirais-je, de mes questions. Répondez.
J'aime mieux m'en aller.
Il descend de son escabeau vivement et veut fuir. L'intervieweur, qui est entré dans le comptoir, le retient par un pan de son tablier.
Un décrotable bonhomme.
Il lui prend amicalement le bras.
Voyons, prenons les voies détournées. Connaissez-vous l'illustre docteur Cesare Lombroso?
Lombroso,
oui.
Chapuzot, qui s'est dégagé, saisissant un arrosoir, arrose la pièce avec fureur.
Je le connais, je ne le connais pas, et comme vous voudrez.
L'intervieweur, qui s'est installé au comptoir, prend des poses d'orateur.
Un homme de génie, Chapuzot.
Je ne dis pas le contraire.
L'intervieweur frappe sur le comptoir.
Un homme de génie épatant, Chapuzot.
Je le crois, oh!
Un savant extraordinaire et formidable, qui a découvert que tous les hommes de génie étaient des brutes et des assassins.
Bon, bon!
Les brutes et les assassins, des hommes de génie.
Tout ce que vous voudrez!
Alors, quelle est votre opinion sur les travaux de l'illustre docteur Cesare Lombroso? Sur ses découvertes admirables relatives aux criminels nés, à l'insensibilité physique des assassins et des femmes? Sur ces affirmations catégoriques de la stupidité de Baudelaire et de l'abject gâtisme de Verlaine, de Tolstoï, de Victor Hugo, sur ces glorifications de l'esprit scientifique de Dubu-Laforêt. Quoi? Hein? Qu'est-ce que vous dites?
Rien.
Ne sachant plus que faire, il est venu s'asseoir à la table de droite, où il allume sa pipe.
Soutenez-vous avec lui cette thèse merveilleuse et rénovatrice que la pauvreté... Et la pauvreté, Chapuzot, n'est pas un malaise social, une tare économique, mais une névrose.
Je veux bien.
Une névrose, Chapuzot.
Possible, possible.
Et savez-vous comment il fut amené à résoudre ce problème considérable? Vous m'écoutez?
Je vous écoute, ah, bon Dieu!
L'illustre docteur se procura une dizaine de pauvres, offrant toutes les apparences de la plus aiguë pauvreté.
Oh, c'est pas ce qui manque.
Taisez-vous, il les soumit à l'action des rayons X. Prêtez-moi toute votre attention.
Voilà, voilà.
L'intervieweur joue avec les bouteilles du comptoir.
Ces 10 pauvres accusèrent à l'estomac, au foie, au gros intestin, des lésions fonctionnelles graves, très graves, mais qui ne parurent point suffisamment caractéristiques, spécifiques, pour tout dire adéquates, vous comprenez.
Allez, allez, ne vous gênez pas.
Le décisif fut une série de taches noirâtres qui se présentèrent successivement au cerveau et surtout l'appareil cérébrospinal.
Hein, quoi?
Cérébrospinal.
Ah, bon.
Et jamais encore le célèbre savant n'avait observé ces taches sur le cerveau des malades riches, ou seulement aisés, vous entendez?
J'entends bien.
Dès lors, il fut fixé et il ne douta plus que là fut la cause de cette affection névropathique et démentielle, la pauvreté.
Oui, oui, évidemment. Ne vous gênez pas.
De quelle nature étaient ces taches, me demanderez-vous?
Tout en parlant, il débouche des bouteilles qu'il flaire et se fait un mélange. Chapuzot se lève, se rapproche du comptoir et surveille les mouvements de l'intervieweur.
Est semblable à celle que les astronomes relevèrent à la périphérie de l'astre solaire. Avec cette particularité, toutefois, qu'elles avaient une apparence d'induration cornée.
Il remue le mélange avec une cuillère.
Et remarquez en passant, Chapuzot, comme tout s'enchaîne.
Il voit.
Et comme une découverte en amène une autre. Astre et cerveau, comprenez-vous.
Il reboit. Chapuzot a pris deux soucoupes qu'il porte sur la pile des autres et remonte à gauche, près du comptoir, hors duquel, peu à peu, il pousse l'intervieweur.
Lombroso avait désormais dans la main non seulement la solution de la question sociale, mais encore la solution d'un problème autrement important qu'il cherchait vainement depuis longtemps. L'unification des sciences.
Sacré nom d'un chien.
Oh, je n'ai pas le temps de vous donner de ces tâches une description physiologique complète. Ce serait trop ardu pour vous. Peu importe d'ailleurs. Contentez-vous de savoir qu'après de nombreuses expériences, l'illustre Lombroso parvint à en déterminer exactement la nature. Le reste n'était plus qu'un jeu pour lui.
Ah, tant mieux, sacré coquin. J'ai eu chaud.
Il séquestra ces 10 pauvres dans des cellules rationnellement appropriées au traitement qu'il voulait appliquer. Il les soumit à une alimentation intensive, à des frictions yeux durés sur le crâne, à toute une combinaison de douches habilement serrées et graduées, bien résolues à continuer cette thérapeutique jusqu'à guérison parfaite. Je veux dire, jusqu'à ce que ces pauvres fussent devenus riches. Vous comprenez?
Ma tête, mon Dieu!
Laissez votre tête, Chapuzot. Le docteur Soquet, messieurs Deblair et moi, nous nous occuperons de votre tête plus tard.
Monsieur Deb?
Écoutez, au bout de cette semaine de ce traitement, il arriva ceci. L'un de ces pauvres avait hérité une somme de 200 000 francs.
Ah!
Un deuxième avait gagné le gros lot au tirage des obligations de Panama.
Nom de nom! Oh, nom de nom!
Un troisième, une maison de passe moderne style à l'une des nombreuses loteries du mouvement. 12 millions de lecteurs.
Le vénard!
Le quatrième, plus heureux, ayant trompé la vigilance de ses gardiens et étant sorti dans la rue, avait eu les deux jambes broyées par une automobile, ce qui lui valut une belle indemnité de 60 000 francs.
Ça, par exemple!
Les autres étaient morts. On les avait pris trop tard.
C'est vrai, ça?
Tout ce qu'il y a de plus vrai...
C'était Patin?
Non, c'est scientifique. Et servez-moi un boc.
Voilà, voilà.
Il sert un boc sous coupe.
Et je voulais en venir à ceci, Chapuzot.
C'est donc pour finir.
Chapuzot, dans quelle catégorie de névropathe vous classez-vous? De quel genre de maladie psychique êtes-vous atteint?
Marchant vers lui...
Êtes-vous un déséquilibré? Un...
Mais nom d'un chien! Je suis marchand de vin!
Un mystique? Un syphilitique? Un alcoolique? Un sadique? Un ataxique ambulatoire? Un dilettante de la chirurgie? Un décadent? Un pauvre?
Mais laissez-moi tranquille à la fin! Je suis marchand de vin! Bistrot! Mastroquet, là!
Et Chapuzot?
Non! Vous m'embêtez.
Chapuzot.
Non, non! Allez au diable!
Alors, vous persistez à nier?
Zut!
Vous vous refusez à toute expérience scientifique?
Que le diable les emporte!
Vous vous obstinez à vous moquer de la presse?
Je m'en fous!
Très bien. Je vais vous confondre. Revenez ici.
J'en ai assez!
Revenez ici.
Chapuzot revient lentement. L'intervieweur tire de sa poche un numéro du petit journal.
Tenez, voici le petit journal.
Mouvement respectueux de Chapuzot.
Et voici ce que je lis dans le petit journal. Vous ne contestez pas que le petit journal soit une autorité.
Pour ça, c'est mon journal.
Oui ? Eh bien écoutez, à la suite d'une altercation dont la cause est restée mystérieuse... Mystérieuse, vous entendez, Chapuzot ?
J'entends bien.
Dont la cause est restée mystérieuse. Un sieur Chapuzot ? Regardez, il y a bien Chapuzot.
C'est vrai.
Est-ce imprimé, oui ou non?
Ma foi, oui.
Et dans le petit journal encore?
Ah, oh, mais...
Et dans votre journal?
Ah, oh, mais qu'est-ce que cela veut dire?
Vous êtes tout pâle, Chapuzot.
De quoi se mêle-t-il, le petit journal?
Vous allez voir, vous allez voir. Ah, vous ne faites plus le fanfaron. Le loustique, le syphilitique, le simulateur.
Ça, c'est fort.
Continuons. Un sieur Chapuzot, marchand de vin à Montrouge.
À Montmartre.
À Montrouge.
À Montmartre.
À Montrouge. Il y a bien un marchand de vin à Montrouge.
Mais puisque je suis de Montmartre...
Eh bien, qu'est-ce que ça fait?
Ce que ça fait. La rue Le Pic, où nous sommes, est-elle à Montrouge ou à Montmartre?
Taisez-vous, là n'est pas la question. Sieur Chapuzot, marchand de vin à Montrouge...
Martre.
Rouge.
Martre. Oh.
A lancé une bouteille de cassis à la tête de sa femme. Évanouissement, mare de sang, l'état de la malheureuse est très grave, etc., etc. Voilà.
Mais, encore une fois, je ne suis pas de Montrouge, puisque je suis de Montmartre.
Rouge.
Martre.
Autre œuvre de plaisanterie. Vous nommez-vous Chapuzot?
Oui.
Êtes-vous marchand de vin?
Oui.
Tout cela est-il consigné dans le petit journal?
Oui.
Eh bien alors, que vous soyez de Montrouge ou de Montmartre, cela n'a aucun intérêt.
Nom de Dieu, puisque je vous dis...
Vous refusez de répondre. Vous croyez vous en tirer par des dénégations enfantines, des calembours, des pitreries? Très bien.
Enfin, monsieur le journaliste, c'est pourtant clair. Ça se comprend facilement du moment que je suis de Montmartre.
Rouge.
Martre.
Rouge.
Martre. Et Martre.
L'intervieweur se monte peu à peu. Jusqu'à la colère.
Oui, oui, allez, allez.
Il marche de droite à gauche, cognant les meubles.
Je suis à bout de patience. Je dirais dans le mouvement, le plus littéraire, le mieux informé, le plus répandu, 12 millions de lecteurs. Je dirais, Chapuzot, que vous mettez de la trichinine. Non, de la pepsine. Non, de la fusquine dans votre vin. Je dirais que vous avez fait un enfant à votre fille. Et même un infanticide, car enfin, si vous n'avez ni femme, ni maîtresse, ni famille, vous avez peut-être une fille.
Chapuzot veut parler, s'étrangle, tousse, se démène, se livre à une mimique désordonnée.
Je dirais que votre établissement est un repère d'anarchistes, de congréganistes, de francs-maçons et de faux-monnayeurs. Je dirais que votre femme couche avec tout le quartier, que votre tante, que votre... Nous verrons si vous persistez à vous jouer de la presse, de la grande voix de la presse.
Chapuzot est de plus en plus affolé.
Mais je vous dis, je vous répète, je jure. Sacré nom de Dieu, c'est trop fort tout de même, puisque je suis de Montmartre.
Rouge.
Martre, Montmartre.
Je vous ruinerai, je vous déshonorerai. On ne badine pas avec la presse. Je vous ai expliqué que la presse est la conscience universelle. Où est votre femme?
Ma femme? Encore?
Non. Il quitte le comptoir, vient près de l'intervieweur suppliant.
Puisque je n'ai pas de femme...
Comment? Vous n'avez pas de femme? Et vous lui lancez des bouteilles de cassis à la tête?
Non.
Tâchez d'être logique dans vos dénégations.
Mais...
Allons, amenez-moi votre femme. Elle parlera peut-être, elle...
Voyons.
Il faut que je la voie, que je l'interroge, que je tâte sa psychologie,
cochon,
que je remonte aux sources de son atavisme.
Salaud.
Comment est-elle, votre femme?
De ma vie. Non, de ma vie.
Blonde? Ah, brune alors.
Chapuzot est totalement abruti.
Grande, bien faite, a-t-elle des passions inavouables? Est-ce vous qui l'avez dépravée? Combien de fois s'est-elle fait avorter? Oui. Une fois, deux fois?
Mais...
Ah, vous refusez de répondre, de m'aider dans mon enquête. Naturellement. Un mutisme et séquestration, sans doute. Eh bien, nous allons rire. J'aime mieux ça.
Il marche, se frottant les mains.
Encore quelques mots pour en terminer. Que pensez-vous de la télépathie sans fil? Quelles sont, suivant vous, les causes de phénomènes hypnotiques? À quoi attribuez-vous la marche progressive de la dépopulation? Avez-vous une opinion nette sur le socialisme d'État, les grands trusts américains, le malthusianisme au théâtre et le désarmement universel?
Chapuzot est acculé au mur. L'intervieweur l'empoigne, le secoue, puis le couche violemment sur la table.
Dans quelle direction pensez-vous que doit s'orienter la littérature? Optimiste? Pessimiste? Humaniste? Symboliste? Naturiste?
Il le lâche.
Très bien, c'est un parti pris de silence, une offense voulue envers la presse. Il vous en cuira, monsieur Chapuzot.
Il traverse la Seine, va reprendre son chapeau et son appareil.
Il vous en cuira, c'est moi qui vous le dis. Un dernier boc, je vous prie.
Voilà.
Il sert le boc.
Je m'en vais. Je vais interroger vos voisins. Et les voisins de vos voisins, car les voisins de nos voisins sont nos voisins, n'est-ce pas ? Adieu.
Il se dirige vers la porte. Chapuzot, qui a compté les soucoupes et les portes,
monsieur,
se dirige vers l'intervieweur.
Monsieur.
Non.
Mais monsieur.
Non, tant pis pour vous, il est trop tard.
Mais vous me devez 12 bocs.
L'intervieweur se détourne, s'arrête près du comptoir.
La presse ne doit jamais rien.
Il tape sur le comptoir d'un coup énergique. Un plateau tombe, éparpillant sur la Seine, verre, cuillère, qui roulent et se brisent. Et il sort. Chapuzot, au comble de l'affolement, laisse tomber aussi ses 12 soucoupes. Il veut les rattraper, tombe à son tour, parmi toute cette vaisselle brisée.
Nom de Dieu. Nom de Dieu.
Rideau. Donneur de voix ayant participé à ce projet collectif, par ordre de leur entrée en scène. Chapuzot, Christophe Ménager. Une femme pauvre, Cocotte. L'intervieweur, Prof Tournesol. Didascalie et présentation, Christine Sétrin.